C'est Vincent Maisonneuve et Nathalie Nemieux qui nous l'apprennent ce matin. Moi, je le savais pas. Je savais qu'on passait beaucoup de temps sur nos téléphones intelligents. 2 heures et demie en moyenne par jour. 2 heures et demie en moyenne par jour qu'on passe sur notre téléphone. Ça représente 38 jours dans une année. 6 ans et demi de notre vie. Vous rendez-vous compte? Puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans téléphone intelligent, sans téléphone portable. Puis là, on s'est dit, bien, quelle belle occasion pour faire le bilan un petit peu de l'impact qu'a eu l'arrivée de cette technologie du téléphone intelligent dans nos vies, l'impact positif, l'impact négatif aussi. On va aller rejoindre Jacques Brodeur, qui est consultant en déconnexion des écrans et directeur du site et du PAX. Consultant en déconnexion des écrans, M. Brodeur, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Ça veut dire quoi, ça, consultant en déconnexion des écrans?
Ça veut dire que quand j'ai pris ma retraite, après avoir enseigné l'éducation physique pendant 35 ans, j'ai constaté que le temps que les jeunes passent sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, c'était un temps qui augmentait rapidement et dramatiquement. Il y a des personnes qui tentaient de nous dire, des gens qui se présentent comme des experts, qui nous répétaient souvent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est passager, ça ne laissera pas de traces, il n'y aura pas de dommages. Je n'ai pas cru à ces façons-là de nous rassurer et j'ai décidé de creuser la question.
Oui.
Et en 2002, je me suis risqué à inventer un programme de déconnexion des écrans, pas à tout jamais, juste conduire des adolescents, et j'en ai conduit des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, dans un voyage, une aventure exploratoire où on essaye de se priver d'écran. Je n'avais pas inventé l'idée, je l'avais prise dans les actualités qui nous arrivaient de Californie en 2001. Un certain professeur de médecine, le professeur Thomas Robinson, venait de publier les résultats obtenus avec des enfants de 8-9 ans, avec un programme qui s'appelait Student Media Awareness to Reduce Television, SMART. Le programme de réduction du temps écran de Robinson m'a charmé. Je lis sur son projet. Bon. Il y a 2/3 des élèves qui ont tenté l'aventure. Il y en a 1/3 qui n'ont même pas été capables d'essayer. Et je me suis dit, si en Californie ils réussissent ça, j'ai l'impression qu'au Québec, on est capable de faire encore mieux. Et là, de fil en aiguille, j'ai inventé un nouveau sport, un sport extrême, M. Drainville, passer 10 jours sans écran. Et les élèves qui tentent l'aventure, j'en ai perdu aucun jusqu'à maintenant, ils ont tous survécu.
10 jours par année.
10 jours, attention, une première aventure exploratoire de 10 jours. Dans ces 10 jours-là, une fois que c'est terminé, il y en a qui trouvent la vie merveilleuse et reconnectent avec la réalité et trouvent ça formidable. Et ils se rendent compte que les écrans nous éloignent de la réalité, bien qu'ils nous donnent l'impression de nous rapprocher de ceux qui sont loin, ils nous éloignent, ces écrans, de ceux qui sont proches, ce qui fait que les habiletés sociales chez les jeunes, ben, elles sont atrophiées.
Ouais. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, OK? Parce que j'en ai 3 enfants, moi, là. J'ai un jeune adulte, j'ai une ado, puis j'ai un pré-ado, OK?
Oui.
Puis ils sont tous les 3, évidemment, accrochés à leur téléphone intelligent.
Oui.
J'essaye d'avoir des discussions un peu de ce type-là avec eux, puis franchement, je peux pas dire que j'ai beaucoup de succès. J'ai même un peu le sentiment d'avoir perdu la bataille.
Alors,
comprenez-vous?
Monsieur Drainville, vous n'êtes pas le seul à avoir l'impression d'avoir perdu la bataille. Je vais vous expliquer 3 petites choses que vous allez reconnaître quand je vais vous les expliquer. Vous les savez d'avance. 1. Vos enfants, ils vous connaissent depuis qu'ils sont au monde. Ils vous trouvent fatigant, ils vous trouvent retardé, ils vous trouvent ancien, ils vous trouvent pas moderne. Et ils ont entendu vos petites leçons de morale 10, 50, 100, 1000 fois. Alors, M. Drainville, je vous annonce tout de suite que le sujet de discorde et de dispute numéro 1 dans toutes les familles du Québec, du Canada et d'Amérique du Nord, le sujet de dispute numéro 1 s'appelle le temps que les jeunes passent sur les écrans. La 2e information que je vous donne, c'est que vous avez besoin de moi. Pourquoi vous avez besoin de moi? Parce que vos jeunes n'ont jamais entendu ce que ce que j'explique à des adolescents et à des jeunes adultes. Ils n'ont jamais entendu. Ils ne me connaissent pas. Quand ils me verraient entrer dans une salle bondée de jeunes de leur âge, ils se diraient « pauvre vieux en avant, il vient nous faire la morale ». Et oui. Là, tout à coup, ils découvrent au bout de 15 minutes qu'il n'y a aucune morale, aucun reproche, mais que les gens qui utilisent cette technologie pour capter l'écran, ce sont des professionnels mieux payés que leurs parents et mieux payés que M. Drainville, l'annonceur de radio, même s'il était député et faisait 2-3 fonctions comme l'ancien député André Arthur.
OK, mais comment vous les convainquez, là? Vous leur dites quoi? Que ça nuit à leur cerveau? Que c'est...
Alors, je vous donne 3 exemples de choses que je leur explique et pour lesquelles je leur demande leur avis. Le premier problème que je leur pose, c'est je leur présente une personne qui m'accompagne dans tous mes voyages qui s'appelle Matt Groening. C'est le réalisateur de l'émission Les Simpsons. Je leur explique que Matt Groening, un jour, avant d'être populaire, il cherchait du boulot. Personne ne voulait l'engager. Et un jour, il lance le fameux série télévisée Les Simpsons, qui devient la série dessin animé la plus populaire aux États-Unis. Matt Groening interdisait à son fils de 12 ans de regarder Les Simpsons. Et je ne donne pas la morale aux élèves, je ne leur donne pas la réponse, je leur demande d'écrire sur une feuille, en 2 lignes, d'après toi, pourquoi Matt Groening interdisait-il à son fils de regarder Les Simpsons?
OK, première chose.
Ils m'écrivent ce qu'ils veulent. La deuxième information que je leur présente, notre ami Steve Jobs. Ils connaissent la photo et je leur montre à l'écran Steve Jobs et je leur explique que Steve Jobs nous vendait de nouveaux téléphones. Chaque année, il y avait un nouveau modèle. Le modèle qu'on avait acheté en écoutant ses conseils l'année précédente, il était plus bon. Ça prenait un nouveau. Notre ami Steve Jobs envoie ses élèves, ses enfants à l'école primaire et va rencontrer le directeur avant pour s'assurer que dans cette école, on n'apprendra pas aux enfants à écrire avec une tablette ou avec un ordinateur.
OK.
Et chez lui, à la maison, Steve Jobs, jamais ses enfants ont mis la main sur son téléphone ou sur sa tablette.
Okay.
Je leur demande, d'après toi, qu'est-ce que Steve Jobs savait que moi et vous, on ne savait pas?
Et vite, le troisième, parce qu'on n'aura pas le temps de se rendre aux réponses, Jacques Brodeur.
Ah ben écoutez, le troisième, j'en ai peut-être bien une douzaine, mais Sean Parker, le président fondateur de Facebook, vient de déclarer au mois de novembre... Nous avons créé un monstre. Pourquoi Sean Parker, qui est le président fondateur de Facebook et qui est aujourd'hui milliardaire grâce à Facebook, pourquoi déclare-t-il « Facebook est un monstre » ? Les élèves, je ne leur donne pas de réponse, je leur pose des questions et j'oblige leurs neurones à essayer de deviner. Qu'est-ce qu'est la force d'un cerveau, y compris le cerveau de vos enfants, M. Drainville? L'imagination. Et je mise sur l'imagination pour créer chez les jeunes une faculté qui s'est atrophiée, qui est en voie de disparition et qui s'appelle le jugement critique. Et quand je termine, je demande à vos enfants et aux élèves qui sont dans la salle d'évaluer la conférence. Ma moyenne joue autour de 9,5 sur 10. Les élèves comprennent comment ça marche et la décision suivante qu'ils ont à prendre, c'est est-ce que ça vous intéresse de vérifier si vous êtes capable de survivre 10 jours sans écran.
C'est 10 jours d'affilée ou est-ce que c'est 10 jours espacés?
10 jours d'affilée.
OK. Alors, il me reste 2 minutes.
Oui.
Le bilan de ces 10 jours pendant lesquels là, ils n'utilisent pas le téléphone intelligent. Mettons, ceux pour qui l'expérience est positive, là,
oui.
Après 10 jours, 2-3 affaires qu'ils découvrent. Et on va s'arrêter là-dessus. Là.
La première affaire qu'ils découvrent, c'est que c'est l'activité physique qu'ils utilisent pour remplacer la lecture et les conversations familiales. Les 3 changements révolutionnaires qui sont causés par la reconnexion des jeunes cerveaux avec la réalité s'appellent activité physique et sport et vélo, lecture et conversation familiale. Évidemment, quand je prépare des élèves à relever un défi comme ça, je suis obligé de m'adresser aux parents. Et je l'annonce aux parents, attention, si les écrans sont fermés, vous êtes tous contents, hein? Mais je vous avertis, vous avez besoin d'être à l'écoute parce que vos enfants, aujourd'hui, les enfants modernes, manquent de temps de communication avec leur papa et leur maman. La deuxième chose...
Donc, vous avez besoin d'être disponible.
Oui, vous avez besoin d'être là et de vous mettre au diapason de qu'est-ce que c'est un jeune qui se reconnecte avec la réalité.
D'accord.
La deuxième chose qui se produit, qui est formidable, c'est que ces jeunes-là se remettent à avoir des fonctionnements harmonieux dans leur collège ou dans leur école. Nous vivons sur un continent où le harcèlement, l'intimidation, les moqueries, les humiliations, y compris des suicides de certains élèves à cause de l'humiliation, c'est des phénomènes qui se produisent dans tous les établissements, non seulement dans tous les établissements, dans toutes les classes. Ça disparaît pratiquement complètement. Les troisièmes, les jeunes reprennent le goût de l'activité physique, l'adiposité perd du pouvoir et ces jeunes-là dépensent le gras subcutané qu'ils ont accumulé parce qu'ils sont toujours assis devant des écrans.
Bon, alors l'an prochain, là, quand on célébrera la prochaine journée mondiale de sans téléphone portable, j'aimerais ça que vous me disiez, il y en a combien qui ont fait le 10 jours qui en ont tiré des enseignements qu'ils ont mis en application pour la suite des choses. En d'autres mots, les belles affaires qu'ils ont découvertes pendant ces 10 jours-là, il y en a combien qui ont trouvé ça tellement bon qu'ils s'en sont servis par après, puis qu'ils ont donc diminué leur utilisation du téléphone et ils ont donc fait un peu plus d'exercice, puis un peu plus de lecture, puis un peu plus de conversation en famille, OK?
Et plus de conversation familiale, plus ils ont passé de temps sans écran, plus ils sont favorables à l'idée de reprendre l'activité l'année suivante. Même ceux qui n'ont pas réussi disent « On vote en faveur de revoir ce projet-là l'année prochaine. »
OK. Ben, alors, on s'en reparle. Jacques Brodeur, consultant Merci. En déconnexion des écrans, directeur du site EDUPAX, E-D-U-P-A-X. Merci pour l'entrevue.
Merci, monsieur.
Et ben, c'est ça. C'est intéressant. C'est une réflexion qui nous amène à la prochaine réflexion. La porno au travail, hein, la pornographie au travail, c'est courant, c'est fréquent. Ça se rend même jusqu'au Parlement, là. Ça sortait à matin, là. Alors, on va réfléchir un petit peu à ça. Comment est-ce qu'on gère ça, la porno au travail, dans un instant?